Conversation sur le périph, une émission en partenariat avec Cadre de Ville et le Pavillon de l'Arsenal, présentée par Lucie Romano, en direct sur Radio Imo.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette conversation sur le périph, une heure de débat à l'occasion de la réédition de l'ouvrage « Des fortifs au périph », un opus que voici qui ausculte la ceinture parisienne des années 1830 à nos jours, un ouvrage qui avait été édité en 1991 et qui a été réédité avec une version augmentée des 30 dernières années, 1990-1920. Vous pourrez observer dans ce livre environ 400 plans, illustrations, c'est vraiment très intéressant, on pourra y revenir. Alors les enjeux politiques, techniques, l'écho entre histoire et présent, on va parler tout cela avec les auteurs du livre, Jean-Louis Cohen. Vous êtes professeur à l'Institute of Fine Arts de l'Université de New York et André Lortie, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Avec nous également Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, en charge de l'urbanisme et du Grand Paris notamment. Bonjour à tous les trois. Nous partons donc ensemble sur ce périph, ce collier d'asphalte de 35 km édifié il y a 50 ans bientôt. Ou plutôt, nous remontons le temps à la redécouverte de ce qui lui préexistait, une ceinture, des projets aussi qui ont mis du temps à sortir et dont l'examen questionne les cycles de transformation urbaine.
Conversation sur le périph, en partenariat avec Cadre de Ville et le Pavillon de l'Arsenal.
André Lortie, je commence avec vous. C'est assez extravagant de le penser, mais le dessin du Tour de Paris était un dessin militaire à l'origine. Racontez-nous ça.
Oui, c'est un dessin militaire. C'est un peu un impensé urbain, en fait. C'est une pensée militaire qui a déterminé le tracé en fonction d'une topographie, en fonction des points stratégiques à maîtriser sur le territoire. À l'origine, d'ailleurs, ça devait être une série de forts. Et non pas un mur continu. Et les débats politiques ont amené cette décision qui combine deux opposés, en quelque sorte, un système de fort et un mur. Et le mur suit précisément le tracé des premiers dessins, des premiers forts, un peu comme dans les dessins d'enfants, quand on relie les points numérotés entre eux pour obtenir une figure, une fleur, un clown. Et ici, la forme de Paris. Et
donc, qui demeure
qui a persisté. Encore. Voilà, le tracé date des années 1830. Le général Axo, en l'occurrence, a perduré encore aujourd'hui. Donc, cette forme impensée urbain, issue d'une pensée militaire, en quelque sorte.
L'enceinte de Thiers a été terminée en 1844, Jean-Louis Cohen. C'est un élément fondateur. On parle là d'une limite qui, comme le disait André Lortie, demeurera. C'est une limite aussi au sein de laquelle Paris ou ses habitants ont fini par étouffer.
Oui, alors l'enceinte de Thiers, donc achevée en 1944-1945, est devenue la limite du Paris des 20 arrondissements en 1860, lorsque Haussmann et Napoléon III ont étendu Paris, et cette limite était donc solidifiée par un mur et la zone non édificandie qui en faisait le tour. C'était aussi, il ne faut pas l'oublier, on peut parler des aspects militaires contestables et contestés, c'était aussi jusqu'en 1943 une limite fiscale, puisque l'octroi a existé jusqu'à cette date, et ce qui évidemment a provoqué toutes sortes une sorte de culture de la contrebande. On allait au-delà des portes dans des guinguettes où on buvait ce vin blanc que l'on appelait le guinguet parce qu'il était détaxé.
Après, l'enceinte est démolie en 1919, après la Première Guerre mondiale. Se pose la question de savoir ce que va devenir cette bande de 35 km de long avec 250 mètres de large. Une bande qui est progressivement investie par des personnes qui ne peuvent pas se loger à Paris, mais ont besoin d'en être proches. André Lortie, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le combat mené par ceux qu'on appelle les zoniers, justement sur cette zone.
Alors, pour préciser un peu plus les choses, l'enceinte militaire est construite sur un terrain qui est exproprié par l'État, qui fait partie du domaine militaire, qui fait à peu près 140 mètres de largeur, donc 35 km de longueur, devant lequel se situe cette zone non édificandie de 250 km. Donc, peu ou prou, à peu près 400 mètres là, de cordon autour de Paris. Mais cette zone non édificandie, elle n'a pas fait l'objet d'une expropriation par l'État. Les propriétaires restent propriétaires, mais sont interdits d'y, d'y construire jusque très tardivement au 19e siècle. Progressivement, l'interdiction s'assouplit. Et c'est à peu près 5000 propriétaires à qui appartiennent ces terrains. Et la loi de 1919 considère que, eu égard au fait que ces terrains sont libres, donc on les transforme en jardin. Mais en vérité, ils ne sont pas du tout libres. Hein. Ils ont la pression immobilière, hein, déjà parisienne, fait que des migrants, toute une population s'y installe, parfois souvent de manière très précaire, bien qu'il y ait aussi des immeubles qui soient construits, de petites usines. C'est assez bigarré hein, comme occupation. Et ce sont ces zoniers qui seront, ces propriétaires zoniers et les occupants qui seront, qui devaient être progressivement, en termes de la loi de 1919, expropriés. Une loi qui est revue compte tenu des difficultés de cette expropriation, pour toutes sortes de raisons, à la fois financières, mais aussi politiques. Ces expropriations sont revues par une nouvelle loi de 1930 qui étend théoriquement le plan chronologique des expropriations jusqu'au début des années 1970.
Finalement, ça n'aura pas lieu parce qu'une loi va à nouveau changer les choses. L'ouvrage interroge la manière dont la nouvelle ceinture peut résoudre le problème de Paris avec sa banlieue, si problème il y a, bien sûr. La manière dont Paris veut s'étendre ou non. En quoi cela vous parle, Emmanuel Grégoire, sur la période actuelle ?
Alors c'est tout à fait fondamental pour la période actuelle, mais c'est aussi renouer avec une grande histoire de Paris et une profondeur historique qui a longtemps marqué la relation de la ville capitale avec sa banlieue et avec le territoire tout entier. Sans être trop long, il y a une histoire de développement concentrique de Paris extrêmement forte, basée sur la succession d'enceintes militaires, d'abord pour protéger la ville depuis le Paris antique, évidemment accéléré par la montée en puissance des monarchies, avec quelques grandes enceintes qui ont profondément marqué l'urbanisme, y compris encore contemporain de Paris, Philippe Auguste, Charles V. Un petit changement de doctrine avec Louis XIV. On abandonne cette doctrine d'enceinte militaire parce que les guerres modernes ne se déroulent plus par siège de ville, mais plutôt sur terrain ouvert. Là aussi, période qui va marquer l'urbanisme de Paris. Et on va renouer avec deux barrières, et ça va nous amener au sujet du périphérique, qui sont des barrières fiscales. La première, c'est la barrière des fermiers généraux. Elle est très importante parce que, pour que les Parisiens et visiteurs la comprennent, c'est à peu près le tracé exact de la ligne 2 au nord et de la ligne 6 au sud, avec un legs à l'histoire important que sont les pavillons Ledoux, la rotonde de Stalingrad, les pavillons de la place de la Nation, ceux d'Enfer Rochereau.
D'abord, fin 18e, hein, fermiers généraux.
C'est fin 18e, c'est juste avant la Révolution française, et d'ailleurs, bon, débat d'historien, mais il est probable que cette barrière a été un accélérateur de la Révolution française par la dimension très inique que les Parisiens y ont vue. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant d'évoquer la barrière des fermiers généraux ? C'est que c'est à peu près notre périphérique d'aujourd'hui. À l'époque, ce sont des portes de Paris. La place d'Enfer Rochereau, la place de la Nation, la place de Stalingrad. Et ces portes sont devenues des places. Et c'est exactement la perspective dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, avec la barrière de Thiers, qui est devenue cette zone à aménager avec des débats extrêmement intéressants, y compris dans leurs résonances contemporaines qui sont nées après la loi de 1919, sur qu'est-ce qu'on devait faire de cette zone. Il y avait les partisans du développement des sports de grand air, il y avait les partisans de la végétalisation, il y avait les partisans du logement. Aujourd'hui, le périphérique, qui a utilisé une partie de l'espace laissé vacant par la barrière de Thiers, eh bien, ça nous projette sur des enjeux qui sont aujourd'hui à peu près les mêmes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on essaye de le reconquérir ? Et comment on essaye de transformer ces portes de Paris en place du Grand Paris, c'est l'enjeu qui est devant nous dans les années qui viennent.
L'idée que la ceinture devienne un lieu médian et non plus,
une barrière.
Final, barrière. Alors, il y a un volet intéressant dans ce livre, c'est autour de la planification, planif en notre planif, j'ai envie de dire, puisque l'histoire de la ceinture peut aussi, à certains égards, être considérée comme un cas d'école sur ce que doit être ou non la planification. Entre autres, on peut noter un avant-projet d'aménagement arrêté en 1924, mais finalement, beaucoup de constructions lui ont précédé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Louis Cohen ?
Je dirais qu'il ne faut pas prendre les plans à la lettre. Les plans, ça n'est pas un programme d'action précis que l'on va mener de façon implacable. Tout plan est un peu la projection, la condensation de l'état des esprits et l'expression des aspirations, l'expression des intentions et aussi du rapport de force. Donc je dirais que la ceinture, depuis les premiers plans pour son aménagement, pour le remplacement des fortifications par des immeubles, un plan d'Alphand établi autour de 1884, je dirais que la ceinture a été un cimetière de plans. Les plans s'y sont accumulés, rendus rapidement obsolètes par les limites, par exemple les limites du budget de la ville de Paris, qui l'a empêché d'acquérir les terrains de la zone dont parlait André à l'instant. Et ces plans théoriques se sont succédés dans les années 50 et plus près de nous dans les années 80-90. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut toujours conserver une certaine modestie au moment où l'on voit apparaître des plans qui, encore une fois, engagent plus ceux qui croient que ceux qui sont chargés de les réaliser dans beaucoup de cas.
Beaucoup de remodelages successifs et aussi dû à l'opportunisme, aux opportunités qui se sont présentées. C'est ça aussi l'idée
derrière.
Oui.
Alors la ceinture est une sorte de transcription de la politique française et de la politique parisienne. Si la zone n'a pas été expropriée dans les années 30, c'est aussi que chaque parti politique y avait des électeurs et que personne ne voulait les mécontenter. Plus près de nous, la ceinture a été un enjeu dans les débats sur le Grand Paris, entre un Paris de droite et un département de la Seine de gauche. Depuis, la géographie politique parisienne et régionale a changé, mais ces enjeux politiques se sont toujours projetés sur la ceinture.
Et ça continue encore aujourd'hui avec le périph, avec région, État, échelle métropolitaine, Paris, évidemment, pour y revenir. Je suis toujours avec André Lortie et Jean-Louis Cohen, les deux auteurs de l'ouvrage « Des fortifs au périph », paru aux éditions du Pavillon de l'Arsenal, avec Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à l'urbanisme au Grand Paris d'Anne Hidalgo. On va se pencher sur un questionnement qui revient souvent une fois la ceinture démolie. On a commencé à en parler. La ceinture doit-elle être une ceinture de végétation ou une ceinture de logement ? Jean-Louis Cohen, je me retourne à nouveau vers vous pour parler des HBM, des habitations à bon marché qui trouvent toute leur place sur les volumes constructibles de cette zone, et ce d'ailleurs de manière plus ou moins uniforme, en tout cas de manière assez fine.
Alors, la ceinture des fortifications de Thiers est détruite en 1919, au moment où, pour la première fois, un financement public massif est affecté aux logements sociaux. Et donc, l'office de la ville de Paris, des sociétés d'économie mixte créées ad hoc comme la RIVP, la régie immobilière qui existe toujours, se lance dans des programmes dont on a du mal à apprécier l'ampleur aujourd'hui. C'est environ 30 000 logements qui sont construits en une vingtaine d'années, dont 15 000 par la seule RIVP et essentiellement par un seul architecte auquel je voudrais rendre hommage, car c'est l'architecte le plus prolifique de toute l'histoire de Paris, dont on oublie le nom, le voit sur les plaques. Il s'appelle Louis Clovis Écli. Il a construit la moitié de la ceinture. Et la géographie du logement social, il faut le noter, elle est asymétrique, comme celle plus tard du périphérique. De la même manière que le périphérique est enfoui face au bois de Boulogne, mais pas dans le 19e arrondissement, les logements sociaux occupent un anneau au nord, à l'est et au sud de Paris, et il n'y en a pas à l'ouest, où les terrains qui ont une valeur marchande plus élevée sont vendus par la ville à des promoteurs privés et même à des privés. Donc il y a une inégalité. Je dirais que la ceinture et ses 30 000 logements reflètent les contrastes de classe parisiens. Et ceci se joue même à l'échelle de ce que nous avons, avec André et Lortie, appelé les segments allant d'une porte à l'autre. Les logements de meilleure qualité et plus rentables sont situés au droit des portes, là où passe le métro.
Plus proche du métro, oui.
Et lorsqu'on est très très loin du métro, eh bien, on y met les logements de catégorie inférieure ou les équipements publics qui ne payent pas de charges foncières pour leur terrain.
Emmanuel Grégoire, cette zone pourrait théoriquement encore accueillir beaucoup de logements, puisqu'une réserve foncière existe, issue de la loi notamment. Le souci est évidemment la forte pollution qui est pointée régulièrement, notamment par l'autorité environnementale. Néanmoins, la ville poursuit des projets pour habiter le périph', avec même des opérations incluant des immeubles ponts qui n'ont pas encore relevé tous les défis devant eux d'ailleurs. Comment surmonter l'enjeu de transformation environnementale du périph'?
En fait, il faut agir sur les deux leviers. D'abord, rappeler que c'est une zone très dense, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Quand vous faites une bande de 500 mètres autour du périphérique de part et d'autre, c'est 550 000 habitants. C'est déjà en soi une immense ville qui se déploie autour de cette ceinture. Et avec, c'est vrai, une importance plus importante de concentration de population sur la partie parisienne, un peu moins de 350 000, qui est liée notamment à l'urbanisme d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui s'est moins développé puisque, rappel, et c'est une des histoires un peu moins glorieuses, que la grande politique d'évacuation de la zone, vous les appelez les zoniers, on les appelle aussi les zonards, d'où l'expression populaire, c'est pendant l'occupation, c'est sous le régime de Vichy que des évacuations massives sont faites de zones habitées illégales, très paupérisées autour de ces bandes. Mais donc on a un urbanisme qui se développe plus tard. Et il est clair que c'est probablement, pour Paris, c'est une évidence, mais même à l'échelle de la métropole et même nationalement, une des zones à penser sur le plan urbain les plus enthousiasmantes et les plus gigantesques des 30 ou 40 prochaines années. Et il n'y a pas de solution miracle. Il y a les solutions de court terme. Et pour moi, les immeubles ponts sont une solution de court terme, parce que ça veut dire essayer d'articuler les niveaux de pollution importants, beaucoup trop importants, et quand même développer quelques projets. Mais la solution de moyen long terme, elle n'est pas là. La solution de moyen long terme, c'est de faire baisser drastiquement la circulation automobile, ce que nous traduisons par notre intention de transformer le périphérique en boulevard urbain, de façon à concevoir un urbanisme qui soit un urbanisme qui se tourne vers le périph, ou ce qui ne se sera plus le périphérique, plutôt qui lui tourne le dos, comme c'est, pour des raisons évidentes, encore le cas aujourd'hui. Et donc, nous devons travailler sur les deux jambes, à la fois réfléchir à la transformation du périphérique, ce que nous faisons dans le cadre des ateliers du périphérique avec la ville de Paris et les 22 communes limitrophes, et puis concevoir sa transformation. C'est un enjeu majeur, et je résume ainsi, c'est que le périphérique est un ouvrage complexe, parce que je rappelle que c'est un ouvrage, il est très souvent, à de rares exceptions près sur le secteur vers Gentilly, c'est un ouvrage souterrain ou un ouvrage aérien, et donc ça soulève des questions de financement public, de complexité technique
aussi,
difficile à travailler, qui prendront du temps. Mais la volonté politique, elle est là. Je la crois partagée par les communes limitrophes, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité politique. Et il n'échappe à personne que nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités politiques. Mais nous allons faire disparaître le périphérique, comme nous avons fait disparaître la barrière des fermiers généraux, parce que ça ne correspond plus à l'ADN de l'espace métropolitain dans lequel s'inscrit Paris et dans lequel il n'aurait aucun sens à imaginer vivre seul.
On va revenir sur la manière dont vous voulez faire les choses.
Conversation sur le périph, en partenariat avec Cadre de Ville et le Pavillon de l'Arsenal.
André Lorty, la ceinture accueillait aussi, dès le début du XXe siècle, des projets de systèmes de parcs. D'ailleurs, comparer un plan des années 1910 et un plan des années 2010, c'est assez savoureux, parce qu'en fait, il y a beaucoup de similitudes. La ceinture est vraiment un lieu du « en même temps ». On a toujours cherché à y conseiller les opposés, André Lorty.
C'est ce qu'un regard historique nous révèle, effectivement. Pour revenir sur la question du plan dont on parlait tout à l'heure et sur lequel Jean-Louis vous répondait, le plan est aussi un médiateur. C'est un médiateur, pourrait-on dire, vertical entre une intention politique et technique, un programme qui en découle, et le territoire matériel et concret. Mais c'est aussi un médiateur horizontal, pourrait-on dire. C'est le plan qui cherche à concilier, c'est à travers le plan plutôt qu'on révèle ces tentatives de conciliation, d'opinions, d'intentions, parfois contradictoires. Et en l'occurrence, on voit sur la ceinture que ces intentions, parfois contradictoires, ont été conciliées dans des plans. Dès le début, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure au sujet de cette combinaison d'un système de fort et d'une enceinte militaire, ce sont deux systèmes défensifs qui se suffisent à eux-mêmes. Et on a choisi de les combiner. Donc on a combiné deux intentions, en l'occurrence contradictoires, quand on lit, je ne me tarderai pas là-dessus, mais quand on lit les débats de l'époque. La combinaison d'une ceinture d'immeubles de HBM dont parlait Jean-Louis et d'une ceinture verte est à nouveau la combinaison d'options contraires, donc qui sont débattues comme étant des options contraires à l'époque, au début du XXe siècle. On a finalement une loi qui concilie ces deux options par une ceinture verte et un ensemble d'immeubles. Le dessin du boulevard périphérique tel qu'on le connaît aujourd'hui est issu d'une option paradoxalement aussi contradictoire, c'est-à-dire un ensemble de jardins linéaires avec une grande voie parcourée qui devait être cette voie de déambulation dans la verdure et finalement qui est devenue une autoroute pour d'autres raisons. Donc on a la conciliation de cette grande voie et des jardins s'est révélée inefficace. Et encore aujourd'hui, on a des options qui s'apparentent à ce « en même temps hein, ». Donc historiquement, on voit que finalement, c'est une rhétorique et une sémantique très actuelle. Mais ce « en même temps » cache aussi parfois des injonctions paradoxales. Et quand on lit les études qui sont faites sur la ceinture externe, on découvre que le terrain tel qu'il est, en même temps, une réserve écosystémique, en quelque sorte, c'est la ceinture verte, ces jardins, etc., et en même temps une réserve foncière. Et donc, pendant un siècle et demi, cette ceinture a réussi, dans son espace de 400 mètres de largeur, à concilier ces contradictions et à les faire vivre, parfois douloureusement, en ce qui concerne le boulevard périphérique, dont parlait Emmanuel Grégoire tout à l'heure, c'est évident.
Mais la
marge se réduit. Hein.
Oui, c'est ça.
Et donc aujourd'hui, on est devant une vraie difficulté.
Justement, Emmanuel Grégoire, en effet, la période contemporaine n'est pas exemple de contradictions apparentes. On parle de talus plantés sur le périphérique, de forêts urbaines, et dans le même temps, on parle de construction sur des secteurs vraiment collés au périph, type Brunzo, mais il y en a d'autres. Comment vous pouvez... où vous placez le curseur sur le végétal et la construction, et comment faire en sorte qu'on ait encore l'esprit potentiel d'un système de parc le long de la ceinture, par exemple.
Eh bien, il faut concilier les deux. Et d'ailleurs, comme vous l'évoquiez, c'est pas nouveau. La ville avait fait une exposition sur la barrière de Thiers et sa transformation post-1919. Et c'est incroyable l'actualité des débats de l'époque entre les partisans du sport populaire, entre les partisans des espaces verts, y compris pour certains, leur opposition indirecte et un peu cachée de s'opposer aux HBM, la volonté de construire du logement et la politique en général, au sens noble, pardon, de le dire ainsi, mais c'est bien précisément de mettre en cohérence des orientations qui ne le sont pas naturellement. Voilà. Et donc nous portons une vision qui est une vision d'équilibre dans lequel il y a de la mixité dans la programmation, de la mixité dans la destination de la transformation urbaine que nous voulons engager. Donc à la fois des logements, parce que je le dis très fermement, parce que je m'inquiète parfois que ce soit absent des débats publics. Nous avons une agglomération, au sens large, pour ne pas la qualifier institutionnellement, qui est importante et en croissance démographique. Et je crois que c'est une chance pour notre pays et pour notre métropole. Il va falloir loger les gens. Il va falloir les loger. Parce que si nous ne le faisons pas, il se reproduira ce qui s'est passé à chaque moment de l'histoire où il y avait des croissances démographiques et dont, d'ailleurs, la zone est un des témoins historiques. C'est la création de bidonvilles. Il y aura, dans les 20 ans qui viennent, la réapparition des bidonvilles aux franges des villes. Alors peut-être plus en cœur de métropole compte tenu de la densité de son urbanisme, mais il y aura des bidonvilles parce que si on ne loge pas les gens, ils ne renoncent pas à faire des enfants pour autant. Et donc il y aura des trappes à pauvreté. Et il faut que les pouvoirs publics au sens général s'en saisissent pour dessiner une trajectoire. L'effort ne peut pas reposer que sur les mêmes, parce que sinon ça a des écueils que nous connaissons bien. L'effort doit être partagé, il doit être construit dans une stratégie d'ensemble et cohérente. Et donc, sur ce secteur, nous avons l'ambition de promouvoir tous ces angles-là, à la fois l'angle de l'habitat et de l'hébergement au sens général, à la fois le sujet de l'accompagnement de la révolution des mobilités. Il n'est pas question de supprimer le périph et d'y interdire la circulation. C'est le sujet de le transformer, de le réorienter. La question des espaces verts, à vocation de loisir ou à vocation aussi de respiration et de création d'espaces de poumons verts, on va dire, du cœur de la métropole. La question des équipements, au sens général, les équipements sportifs, les équipements culturels, etc. Et c'est pour ça que et Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, notamment, avaient veillé à promouvoir une politique de création d'équipements structurants sur cet axe, parce qu'ils seront des relais extrêmement utiles et performants pour accompagner progressivement la transformation. J'en donne deux exemples. La Philharmonie, le tribunal de Paris, l'Arena 2 et le campus Condorcet, Porte de la Chapelle. Voilà. Il faut créer des écosystèmes équilibrés d'habitat, de loisirs, de respiration, d'emploi également. Et donc, pour reprendre l'exemple que vous citiez, parce que je sais que parfois des oppositions se manifestent sur ce thème, qui est Brunzo, l'exemple de Brunzo. Brunzo, il n'a pas de cohérence si on ne pense pas en même temps la transformation future du périphérique. Et donc, en même temps que nous pensons Brunzo, je le dis pour les auditeurs, qui est l'aménagement du sud de Paris rive gauche, donc c'est grosso modo autour de la porte d'Ivry, voilà ce secteur autour des tours du haut de Jean Nouvel, eh bien, c'est un urbanisme qui se projette dans la réappropriation. Et il est trop tôt encore, mais est-ce que parfois on gardera l'ouvrage aérien pour l'en transformer sur un mix de skyline à la new-yorkaise, plus des circulations douces? Parfois on décidera de casser l'ouvrage parce qu'on considérera que dans la cohérence urbaine, il sera mieux de le faire. Et évidemment, je mets un tout petit bémol, c'est que tout ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc il faudra de la patience et de l'ambition. Il faut vraiment se projeter dans l'idée que nous préparons une transformation radicale. Le périphérique, et le plus tôt sera le mieux, ne sera plus ce qu'il était. Ce ne sera plus une autoroute urbaine. Il faut le penser progressivement, pas thromboser la circulation, veiller à ce que l'accompagnement des acteurs économiques se fasse au profit de l'attractivité et pas à son détriment. Mais c'est cette ambition-là qui donne de la cohérence, y compris à des projets aujourd'hui que nous portons et qui suscite des incompréhensions sur l'idée de « Ah oui, mais vous construisez des logements à côté du périphérique ». Non, nous construisons des ensembles urbains à côté d'un endroit qui ne devra plus être le périphérique tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Jean-Louis Cohen, qu'est-ce que ça vous inspire, cette façon d'urbaniser les franges de Paris? Comment se construit ce lien entre Paris et les villes environnantes sur le plan urbain?
Alors, historiquement, c'est un lien qui ne s'est pas construit. C'était une barrière. Et on peut dire que la ceinture des HBM a redoublé, a à nouveau embastillé ou enfermé Paris. Donc il y a eu depuis l'idée de créer des porosités, se devenir place des portes dont parlait Emmanuel Grégoire, qui est à mon avis un magnifique programme et qui est dans la logique de l'histoire de Paris depuis le Moyen-Âge. Se devenir porte, il a quand même été engagé dans certains lieux. Je pense à certains projets transversaux. Je pense à la couverture du périphérique à la Porte des Lilas, qui a montré qu'il est un succès, mais qui montre aussi que les coûts impliqués par ce genre d'opérations urbaines sont colossaux. Donc on a affaire à des coûts de transformation, on le sait, sont bien plus élevés que les coûts de premier établissement. Et je dirais que le thème, pour moi, n'est pas la disparition du périphérique. Ce qui serait impossible, c'est, je dirais, sa métamorphose. Et donc c'est la création d'un tissu plus complexe dont on a des exemples à l'étranger. Je pense à la façon dont dont l'autoroute sur berge, le Franklin Roosevelt Drive, opère à New York de façon très subtile, avec des superpositions et des accouplements avec le tissu urbain. Je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, beaucoup à apprendre aussi de villes qui ont su domestiquer leurs infrastructures aux besoins en les transformant en promenades. Ici, je pense à San Paolo. Donc je plaide pour une globalisation de la réflexion, comme ce fut le cas aux grandes heures de l'aménagement de la ceinture, où les élus, les édiles parisiens, les urbanistes regardaient, observaient ce qui se passait à Berlin, à Londres ou à Chicago. Donc aujourd'hui, je pense que le cas parisien n'est pas un cas isolé. Les grandes métropoles se posent le problème de l'effacement de leurs infrastructures, par des chantiers pharaoniques dans certains cas. Je pense au Big Dig de Boston et à l'enfouissement de l'autoroute qui séparait Boston du rivage et qui a disparu. Mais il y a aussi des solutions plus flexibles, plus subtiles. Je pense à Gênes, je pense à ce qui risque de se passer à Seattle. Et donc, je pousserai, comme le montre l'histoire de la ceinture et du périphérique, je pousserai Paris à observer, à épier et peut-être même à copier les villes du monde.
André Lortie, vous, qu'est-ce que vous pensez de cet effacement progressif ? On ne parle même pas de l'infrastructure routière, mais aussi des immeubles ponts, de la manière dont on peut articuler le lien entre Paris et les villes environnantes.
Alors, Emmanuel Grégoire mentionnait tout à l'heure le fait que ce boulevard ne peut pas être... Enfin, difficilement envisageable de le faire disparaître et de considérer que, comme certains l'ont rêvé il y a quelques années encore, que ce soit une réserve foncière débarrassée de toutes ces voitures. C'est un anneau de circulation important. Et il a un rôle à jouer dans les interconnexions autoroutières, etc. Donc, on est...
Il ne faut pas considérer qu'on fera table rase de
cette infrastructure. C'est difficilement envisageable, en tout cas dans un avenir proche. Donc la pacification, si on peut dire, de cette artère routière passe par des aménagements ponctuels, comme Emmanuel Grégoire l'a très bien décrit, sous forme de boulevard. Mais il y a un risque que des options à court terme n'entravent les options à plus long terme. On le constate, ceux qui fréquentent la porte de Saint-Ouen, par exemple, ou la porte de Clichy, une des premières choses qui a été faite au moment de l'installation du tramway a été de boucher les trémies de passage souterrain. Bon, évidemment, parce que ça ne l'espace n'est pas suffisant pour faire passer à la fois des voitures en dessous, le tramway au-dessus, et les piétons, et les voitures au-dessus, et les vélos, etc. Mais aussi, on a éliminé des coupures très fortes dans le tissu urbain. Passer sous un carrefour, il faut des trémies très très longues qui obstruent toute interaction entre les deux rives de la voie sur des centaines de mètres. Et c'est un risque des immeubles ponts, c'est qu'on se retrouve dans des situations où on souhaiterait dans quelques années transformer le profil du boulevard et puis constater que pour passer sous cet immeuble, il faut des centaines de mètres d'approche. Et donc on sera contraint par ces ouvrages et devoir repenser le rapport à ces immeubles ponts dans la profondeur de la ville. Donc,
c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est à la fois une dimension technique très forte, des objectifs politiques... Vous êtes évidemment conscient de tous ces enjeux techniques aussi. Donc c'est ça, tout à la fois le sel, mais la complexité du chantier, sans compter même la partie financière, qui est bien sûr astronomique. L'idée, c'est aussi de prioriser, de pouvoir avoir des actions ponctuelles assez précises et fortes sur des points précis.
Oui, on est obligé d'avancer progressivement. Peut-être quelques éléments de philosophie, on va dire, tout à fait dans la lignée, ce qui vient d'être évoqué par André Lortie. Moi, c'est pareil, les immeubles ponts, c'est ponctuellement, c'est une bonne idée, y compris quand ça permet de recréer un lien, mais ce n'est pas généralisable, il n'est pas souhaitable de le généraliser. Et d'ailleurs, à cet égard, on a un enseignement aussi pas inintéressant, qui est la barrière, si on peut l'appeler ainsi, des maréchaux. Pourquoi ? Parce que les maréchaux, à un moment donné, c'était le périphérique avant le périphérique soit là. Et les maréchaux, c'est intéressant parce qu'il y a des zones, justement, où dans lesquelles ce sont des vrais boulevards urbains. Il y a des endroits où ils sont en quasi-infrastructure, notamment souterraine, notamment sur la zone ouest, et sur lesquelles on a pu faire des choses intéressantes de franchissement, de construction au-dessus. Mais il ne faut pas que ça casse, j'allais dire, la cohérence du paysage urbain. Et donc, il faut les utiliser avec vraiment précaution et, à mon avis, de façon pas généralisée, y compris parce que ça recrée des fractures à l'intérieur de la fracture. Je travaille beaucoup avec la maire du 14e, avec la maire de Vanves, sur ces endroits-là où le dessin urbain est un peu contestable aujourd'hui, où on a recréé des espèces... Quand je dis « on a recréé », ça s'était fait au XXe siècle, au début du XXe siècle, des espèces de no man's land qu'on n'a pas envie de franchir entre les HBM sans commerce, ensuite évidemment aggravé par le périphérique lui-même, et donc on retravaille là-dessus. Et donc notre parti pris est de dire il y a des endroits où on doit adapter tactiquement nos orientations pour essayer de remplir notre objectif premier. Et notre objectif premier, je le rappelle, c'est de retisser des liens avec les communes limitrophes. Donc il y a des cas dans lesquels on peut s'autoriser des aménagements de grande ampleur par couverture. C'est le cas Porte de Pantin, c'était évoqué.
Et, merci de
rappeler Porte de Lila. C'est très cher, c'est très très cher. Construire des infrastructures au-dessus du périphérique, peut-être les gens ne le savent pas, mais en fait c'est extrêmement complexe pour des raisons de sécurité, extrêmement cher. Quand vous faites un jardin au-dessus, c'est encore plus cher parce qu'il faut mettre de la terre, etc. Alors certes, il y a des progrès techniques qui permettent d'améliorer les choses, mais au moins c'est plutôt réussi. C'est-à-dire qu'un endroit qui était profondément inhospitalier est redevenu un endroit où la plupart du temps, quand on le passe d'ailleurs à pied, on ne se rappelle plus qu'en dessous, il y a le périphérique. Il y a autre exemple que nous mettons en œuvre au cours de la mandature, qui est la Porte de Montreuil, lieu extrêmement complexe, sur lequel on travaille. Par contre, les travaux que nous avons menés sur la Porte de Vincennes ne sont pas aboutis, parce que là, l'ouvrage périphérique est beaucoup plus complexe, fragile, etc. Et donc, il va falloir retravailler la copie. Mais l'idée, c'est de retisser les liens. Parfois, ça peut passer par des immeubles pont, mais vraiment, je pense que quand même la philosophie générale est celle du boulevard urbain apaisé dès que c'est possible, parce que c'est, je trouve, dans la profondeur historique, la forme qui trouve sa cohérence la plus forte. Une cohérence d'environnement, une cohérence patrimoniale, une cohérence de mobilité, y compris qu'a accéléré l'aménagement du tramway. Et donc on fait dans la dentelle, en partant des grands lieux, y compris ceux qui le méritaient, la Porte de la Chapelle, la Porte de Montreuil, Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo en avaient fait dans les mandatures précédentes. Nous nous attaquons à la Porte de la Villette, qui est un des endroits les plus inhospitaliers, qui a d'immense qualité, mais qui aujourd'hui, autour de cette place à la frontière de Pantin, d'Aubervilliers et de Paris, une zone assez inhospitalière, alors qu'il y a de part et d'autre beaucoup de choses à faire valoir. Et on va le faire comme ça, progressivement, avec, j'ose espérer, une intelligence de situation. Et surtout, nous voulons le faire main dans la main avec les communes limitrophes, parce que c'est pour nous un gage de succès. Comme nous voulons retisser les liens, nous devons le faire ensemble.
On va parler de la méthode des ateliers juste après. Un mot, Jean-Louis Cohen.
Oui, je voulais dire que ce lien avec les communes limitrophes, il est fondamental. Et j'ai une anecdote. Lorsque nous avions fait en 91 à l'Arsenal cette exposition des fortifs au périph', pour la première fois, l'adjoint à l'urbanisme de Paris de l'époque, le très estimable Bernard Rocher, adjoint de Chirac, avait invité les maires des communes limitrophes à venir à Paris. C'était la première fois, ça ne s'était jamais passé qu'il y avait une rencontre de cet ordre qui avait fait apparaître à la fois des revendications séculaires. Vous nous avez piqué le petit Ivry en 1860, rendez-nous le petit Montrouge, mais dans le même temps, il y avait, on voyait bien que c'était là que se situaient les enjeux. Mais je voudrais parler d'autre chose très brièvement. Ce que m'inspire le projet ou les programmes de la ville de Paris aujourd'hui, auxquels je souscris fortement, c'est l'importance d'une réflexion paysagère. Je voudrais plaider. Il y a des réflexions techniques, comment faire pour effacer un ouvrage d'art, des réflexions architecturales, des réflexions en termes de programmation. Je pense qu'il faut déployer une pensée unitaire, ou en tout cas englobante en termes de paysage, comme ce fut le cas à certains moments. Je pense au plan de 24 de Jean-Claude Nicolas Forestier. Je pense même au plan Laffey du milieu des années 50 et l'idée de créer un paysage annulaire au milieu duquel l'autoroute urbaine aurait serpenté magnifiquement. C'était une idée évidemment très théorique et qui a été démentie par la suite. Mais je pense qu'il y a le risque d'une réflexion qui illustre, par exemple, le dessin de la couverture de notre livre qui monte le périphérique traversé par plein de petites flèches qui insiste sur les liaisons Paris-Région. Je pense que le risque d'une transversalisation du propos, qui me semble absolument indispensable, et avec toutes ces implications politiques, le risque, c'est de perdre la notion de ce paysage qui a une certaine unité, qui forme, je dirais, presque une vallée annulaire que l'on peut rapprocher de la vallée fondamentale de Paris, qui est celle de la Seine.
On va revenir un court instant sur le transversal par pour évoquer justement la manière dont les projets ont commencé à se tisser entre la ville et les communes environnantes, évidemment, et là, vous allez pouvoir parler aussi de la méthode des ateliers. Le travail se fait de plus en plus intensément pour vraiment arriver à faire émerger la transformation, notamment des portes en place, Montreuil et les autres villes. Toutefois, le dialogue n'a pas toujours été aussi simple. J'en veux pour preuve la ZAC intercommunale, qui n'a jamais justement été intercommunale, de la gare des Mines Fillettes. C'est quand même un exemple aussi des difficultés qui ont pu apparaître au moment de vraiment se mettre sur un coin de table pour imaginer un projet des deux côtés du périph'.
Oui, alors d'abord, il faut avoir en tête que les élus, il peut leur arriver d'être les gardiens un peu conservateurs de leurs propres institutions. Et donc, il faut beaucoup de volonté politique pour dépasser ça. Il y a un trauma historique entre Paris et sa banlieue. C'est que Paris a, dans l'histoire, progressé de façon expansive en mangeant purement et simplement, à coup de loi, des communes entières. Le dernier trauma, celui de 1860, je ne le crois pas totalement digéré dans une certaine manière, où Paris est passé de 12 à 20 arrondissements par l'annexion par la loi de communes pour tout ou partie. Mais parfois, on a laissé des bouts de communes en leur mangeant deux tiers du territoire. C'est exemple la commune de Charenton. Deux tiers de Charenton sont absorbés par Paris. On laisse un petit bout à la commune de Charenton. Et j'ai plaisir à saluer son maire, avec lequel je travaille bien sur des projets de ZAC, pas communes, mais que nous pilotons ensemble. Il y a aussi, une intention politique qui a été menée, je le crois, hein, de façon très volontariste par Bertrand Delanoë, avec Pierre Mansart, avec Anne Hidalgo à partir de 2001, qui est de comprendre que pour répondre à un certain nombre de politiques publiques, tout seul dans notre coin, nous n'y arrivons plus. C'est notamment le cas sur des fonctions aussi essentielles que la cohérence des projets urbains, les stratégies de logement et d'habitat, les stratégies de mobilité. Nous n'y arrivons plus seuls. Et donc il faut inventer un nouveau modèle institutionnel. Et la MGP est une réponse en partie, pas aboutie, mais une première étape intéressante. Et donc nous avons considérablement renforcé le travail. Et pour prendre l'exemple celui que vous évoquez, qui est la ZAC de Gare des Mines, c'est vrai qu'il y aurait pu aller plus loin, etc., il y a quelques années, il y a de nombreuses années même maintenant. Mais il n'empêche que nous travaillons main dans la main. Nous allons demain, avec la maire de Paris, à Saint-Denis, rencontrer Mathieu Hanotin dans ses fonctions de maire et dans des fonctions de président du territoire pleine commune. Nous travaillons très étroitement avec toutes les communes limitrophes. Nous avons un destin lié et je crois chacun en est hautement conscient. Et donc ces collaborations multilatérales via la MGP, bilatéral via des conventions de proximité, notamment avec les territoires et communes limitrophes, il s'incarne politiquement dans des objets, il s'incarne politiquement dans un projet fondateur pour l'avenir de l'intégration territoriale que sont les Jeux Olympiques. Ce sera évidemment au cœur de la visite d'Anne Hidalgo demain à Saint-Denis avec Mathieu Hanotin. Mais ça se dessine aussi sur chaque articulation de projets d'aménagement, de co-portage, de co-élaboration de projets urbains, frontaliers, etc. Je ne dis pas que ça empêche tous les irritants. Il y en a. Comme nous en avons nous-mêmes à l'intérieur de la ville de Paris, parfois entre arrondissements, avec les arrondissements, notamment quand il s'agit d'accueillir les équipements publics considérés comme des externalités négatives. C'est-à-dire personne ne se bat pour accueillir des cimetières, des crématoriums, des déchetteries, etc. Il se trouve qu'il en faut. Paris, d'ailleurs, a eu trop longtemps tendance, historiquement, à faire sa ville à l'intérieur et à dégager les externalités négatives à l'extérieur. Ce n'est plus notre philosophie. Je crois que nous l'assumons. Et donc voilà, je dis pas que c'est parfait. Je dis pas que ça va aussi vite que nous le souhaiterions tous. Mais nous trouvons les voies de nouvelles collaborations. Et nous le faisons autour d'objets urbains, de projets urbains extrêmement concrets.
Et le dialogue doit se faire aussi à différentes échelles.
Bien sûr.
Entre Paris et chaque commune, les EPT.
La métropole, la région.
Voire même l'État.
Beaucoup l'État aussi. Parce qu'il a en matière de planification, notamment urbaine, un rôle très important. Et puis parce que c'est la région capitale, qu'elle pèse pour sa métropole un tiers du PIB de la nation. C'est un enjeu qui engage l'avenir de la nation entière, Paris et le Grand Paris.
Conversation sur le périph, en partenariat avec Cadre de Ville et le Pavillon de l'Arsenal.
On entre dans la dernière ligne droite de cette émission consacrée au périph, toujours avec Emmanuel Grégoire, André Lortie et Jean-Louis Cohen. Ce périph, conçu à l'ère du tout automobile, doit trouver sa nouvelle logique, d'autres fonctions, tout en conservant, on en a parlé un peu, celle d'un système de circulation métropolitain, bien que cela reste un bien parisien aussi, on l'a évoqué. Difficile encore, à ce stade, d'imaginer un périph apaisé, et pourtant, l'ambition de la ville est bel et bien d'en faire un boulevard urbain. J'ai envie de me tourner encore vers vous, Emmanuel Grégoire, pour savoir comment vous allez procéder et évoquer la méthode qui est la vôtre, vers quoi vous voulez tendre, sous quel calendrier ?
Alors, nous avons lancé, Anne Hidalgo a lancé la mandature précédente, une initiative très innovante en la matière qui s'appelle les ateliers du périphérique, qui est une structure pilotée par l'Agence parisienne d'urbanisme et qui associe la ville de Paris, toutes les communes limitrophes, les EPT et puis tous les partenaires, on évoquait la région, l'État, autour de ces enjeux. Il y a eu 4 sessions de ces ateliers du périphérique, précédées de nombreuses réunions, vous savez que c'est une de nos spécialités, pour réfléchir collectivement à et définir les grandes orientations de transformation, la méthode et le calendrier. Et donc, nous continuons à travailler, mais nous rendrons au second semestre, autour de septembre, un livre blanc qui permettra de préciser la stratégie de pacification de la circulation et, disons-le, les conséquences des choix politiques que nous porterons sur la réduction de la vitesse, ce genre de choses. Tout sera mis sur la table. Et ensuite, détailler, puisqu'il y a eu ensuite 4 ateliers, sectoriels géographiquement. On a découpé le périphérique en 4 quartiers pour essayer justement de rentrer dans le détail avec chacune des communes. Et donc, nous présenterons notre stratégie de transformation du périphérique et la méthode et le calendrier que nous proposons. Il y aura des choix très importants à faire. Il faudra donc les peser, il faudra donc les discuter. Mais ne doutez pas que nous les ferons.
Est-ce qu'on va casser un morceau de périph' dans cette mandature, Emmanuel Grégoire ?
Alors, casser un morceau de périph', je ne sais pas. Mais il est très clair que symboliquement, il nous semblerait intéressant qu'au cours de cette mandature, nous puissions travailler à une interruption de la logique continue de l'anneau. Dans quel secteur, on verra. Mais nous avons des maires de communes limitrophes qui sont très volontaires pour initier ce chantier. Et ça fera sans doute partie des choses que nous présenterons précisément au second semestre. Et notamment parce qu'il y a un accélérateur très fort de ça. Et ça a fait l'objet du dernier atelier du périphérique que nous avons organisé. Ce sont les Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, il y a tout un réseau dit de voies olympiques qui permettent de desservir de façon fluide les sites olympiques. C'est une obligation du cahier des charges d'organisation des JO. Et c'est pour nous un énorme accélérateur d'instruction technique dans le dialogue avec l'État à travers la délégation interministérielle des Jeux Olympiques, avec le COJO, qui est la structure qui organise les Jeux Olympiques, avec toutes les autorités compétentes. C'est un enjeu de transformation d'une des voies de façon plus pacifiée. Donc là aussi, on donnera quelques orientations. Mais nous considérons à des véhicules propres, du covoiturage. On va regarder transport en commun. On va regarder tout ça. Mais c'est incontestablement les JO l'occasion d'avoir un accélérateur et un héritage très puissant sur la transformation du périphérique. Mais voilà, ce qui nous séduit beaucoup, c'est d'abord le degré d'implication de tous les maires des communes limitrophes qui sont extrêmement mobilisés parce que leurs habitants comme les nôtres subissent les nuisances secondaires. Donc à la fois, on ne va pas empêcher la circulation automobile, mais en même temps, il faut penser à la santé, à la qualité de vie des 500 000 riverains de cette infrastructure. Et ensuite, vraiment ravi, émerveillé de l'enthousiasme qui est le leur, de beaucoup de maires, sur la transformation, parce que ça rejoint leur propre projet d'aménagement dépénétrante de Paris. C'est parfois des autoroutes urbaines immenses, la A1, la A4, mais c'est aussi des routes nationales qui ont été conçues historiquement de façon extrêmement inhospitalière. Et même si ce ne sont pas juridiquement des autoroutes, ça ressemble quand même bigrement à des autoroutes en pratique, notamment quand on est piéton et qu'on a envie de les traverser. Et donc voilà, nous avons des intérêts communs et je pense qu'on est à un moment d'accélération, de bascule de l'histoire sur le périphérique et que voilà, je pense que la maturité est là et que maintenant l'heure des décisions va venir.
Et vous vous situez à quelle échéance ?
Si vous voulez, il faut être modeste et responsable. Je pense qu'il faudra segmenter. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qui sont faisables dans la mandature. Et nous avons un secteur dans le viseur en particulier. Et puis ensuite, il y a les projets à plus long terme qui sont accélérés par nos programmes dits de devenir porte, qui permettent de commencer à réfléchir à la transformation du périphérique lui-même. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Le projet de transformation abouti, il se dessine à 20-30 ans. Mais nous pouvons avoir des aménagements court terme autour des grands projets d'aménagement. Porte de la Chapelle, Gare des Mines Fillettes, tout la ceinture sud-est autour de Gentilly jusqu'à Porte d'Ivry. Nous avons ce très beau projet commun de ZAC Bercy-Charenton et de ZAC Charenton-Bercy, pour ça que nos destins sont liés, au milieu de l'échangeur urbain le plus inhospitalier d'Europe, probablement, qui est l'échangeur de Bercy. Donc là, il faudra du temps à l'échangeur de Bercy pour le transformer, le supprimer. Je ne sais pas faire ça d'un coup de baguette magique, qu'à la conjonction du périph' et de l'autoroute A4. Mais voilà, on va maintenant rentrer dans le concret et on va faire ça en alliant à la fois d'assumer notre rôle de maîtrise d'ouvrage. Nous l'assumerons pleinement. Et en même temps, du dosage, de la finesse, de la dentelle pour ne pas faire de bêtises.
André Lorty, alors bientôt un nouveau plan pour autour du périph. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Que du bonheur. Non, mais sincèrement, je pense que c'est une perspective réjouissante. En l'occurrence, mon sentiment est que les plus vite des transformations auront lieu, plus vite ce mouvement sera engagé. Plus vite, il sera difficile de revenir en arrière, alors que les voitures, elles, deviendront électriques, ne feront plus de fumée, feront moins de bruit, et l'urgence ne sera plus la même, alors que le facteur automobile n'est qu'un des facteurs, évidemment. C'est l'ouvrage lui-même, sa complexité, etc. D'ailleurs, l'échangeur de Bercy... peut-être un des plus complexes de l'Europe, mais c'est aussi le plus compact. C'est
lui qui assure le plus.
Port de Bagnolet est pas mal non plus.
Jean-Louis Cohen, sur ce qui s'annonce sur Paris et autour du périph, qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Écoutez, ce que je trouve d'extrêmement positif, c'est qu'il s'agit d'une réflexion beaucoup plus élaborée, beaucoup plus raffinée, lucide que les précédentes. Dans le passé, ce territoire a été la proie de stratégies monodisciplinaires. Les militaires, les constructeurs de logements sociaux, les paysagistes qui avaient une vision peut-être plus généreuse que les autres, les ingénieurs de voirie. Donc aujourd'hui, je vois toutes ces disciplines converger. Et aucune d'entre elles ne joue en solo. Je vois aussi cette logique de partenariat territorial qui est une nouveauté à l'échelle de cet espace. Et puis aussi le jeu, le surf sur les grands événements, sans vouloir à tout prix faire d'aujourd'hui et de demain le reflet d'hier. Je rappellerai que les grands équipements sportifs de l'Ouest, le stade Jean Bouin et le Parc des Princes, ont été réalisés à l'occasion des Jeux olympiques de 1924. Donc il y a une espèce de récurrence de ce genre d'opération. Ce que je dirais, c'est que pour moi, l'aspect fascinant, presque merveilleux de cet anneau autour de Paris, c'est qu'il il constitue un horizon vers lequel Paris se projette. La banlieue s'est moins projetée vers lui. Aujourd'hui, elle commence à le faire. Et je crois que c'est à porter au crédit du travail de Pierre Mansa, qui fut l'adjoint chargé de la métropole dans les mandats de Pierre Delanoë. C'est à porter au crédit de l'équipe actuelle de ne pas être les seuls à regarder vers le périphérique, mais d'avoir réussi à braquer le regard, et plus que le regard ou l'attention, la capacité d'intervention des voisins. Donc pour moi, nous entrons dans une phase nouvelle qui est celle d'un urbanisme plus complexe, plus lucide, inscrit de façon tout à fait rationnelle dans les temporalités longues qui sont celles de la ville. Car ce que nous apprend aussi l'histoire de la ceinture, c'est que la transformation des villes s'inscrit dans ce que les historiens français ont appelé la longue durée, des projets formulés dans les années 1880 sont en définitive achevées dans les années 1930.
Parfois avec décalage, voire avec un peu de...
Avec des transformations, mais malgré tout, des projets des années 20 à leur tour achevés dans les années 70. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut, en dépit des moyens plus sophistiqués dont nous disposons pour transformer les villes, je pense que nous sommes aussi dans une logique de la durée.
Si on se place dans une perspective historique, André Lortie, là, on est vraiment dans une phase qui semble être une phase d'accélération des transformations autour de la ceinture.
Ce qu'on constate dans un temps long, comme le disait Jean-Louis, c'est plutôt des périodes d'accélération, puis de stase, puis d'accélération. C'est plutôt ça.
Une alternance.
Oui, une alternance entre des coups d'accélérateur. Celui de la construction des HBM, quand même, était un chantier colossal à mener en quelques années, hein, avec le recul. Et donc, voilà, oui, on est, espérons-le, dans une accélération qui devrait progressivement amener des solutions à cette fracture qui est aujourd'hui... le grand ouvrage technique du boulevard périphérique au milieu de cette ceinture et qui entrave cette limite, qui l'empêche de devenir de passer d'une limite qui sépare à une limite qui associe, qui soit un lieu de rencontre, comme l'a été, comme le mentionnait Emmanuel Grégoire tout à l'heure, comme l'a été le boulevard des fermiers généraux, l'enceinte des fermiers généraux, devenu boulevard des fermiers généraux, par exemple.
On va devoir composer avec une frontière qui restera la 86, par exemple.
Je dirais que l'enjeu, c'est de passer de la rupture à la couture, si vous voulez, un slogan à ce propos.
Sur la 86, parce qu'une fois que le périph aura été un peu gommé, en tout cas un peu effacé, il y a quand même cet enjeu aussi d'aller un peu plus loin, de rayonner davantage, de permettre une circulation encore plus fluide.
Oui, absolument. Alors d'ailleurs, on avait la maire de Paris, les présidents de conseils départementaux et le président de la métropole du Grand Paris proposé au préfet de région de créer un atelier à 86 sur le modèle de l'atelier du périphérique. Le préfet l'a refusé, considérant qu'il existait déjà des cadres de travail. On le regrette. On essaiera d'en rediscuter avec lui. Mais c'est témoigner de notre conscience aiguë que, quand on règle un problème, on ne les règle pas tous, et que les effets de déport amène à s'interroger sur le devenir de la 86 et, en se projetant plus loin, sur la francilienne et ce réseau ou ce périphérique de la grande agglomération, inabouti d'ailleurs, en tout cas dans sa conception d'ouvrage de circulation. Et donc oui, il faut travailler là-dessus parce que des frontières, il y en a d'autres dans notre territoire. La plus importante, je rappelle quand même que ce n'est pas un ouvrage technique, la plus importante, c'est une condition sociologique. Il y a dans notre territoire les plus riches et les plus pauvres, et que, en même temps qu'on s'interroge sur le devenir d'un ouvrage technique, en réalité, on s'interroge d'abord sur la vie des gens. On s'interroge sur les phénomènes de trappe à pauvreté, sur les phénomènes de ségrégation spatiale, d'où notre obsession à retisser un lien très fort et très, très important avec la Seine-Saint-Denis, territoire qui m'est cher, puisque j'y suis né, j'y ai vécu toute mon enfance. Voilà, on ne s'intéresse pas aux routes, c'est pas notre travail. On s'intéresse à la vie de nos concitoyens. Il y a bien d'autres fractures et frontières à gommer. Il n'y a pas que le périphérique sur le métier, comme on dit.
Merci. Peut-être un dernier petit mot de conclusion sur les limites, les possibles que vous voyez aux travaux qui s'engagent. On va être très, très rapide. Sur les limites ou le champ des possibles qui s'ouvre, si on a...
Non, je crois que le déploiement des acteurs, des aspirations, des intentions, mais aussi des moyens est sans précédent. On a franchi un seuil de complexité dans le regard sur cet espace très, très, très saturé. Et de ce point de vue-là, je crois que Paris est capable, comme ce fut le cas à certaines grandes périodes de son histoire urbaine, d'apporter une contribution à un débat qui est un débat mondial sur le destin des métropoles et de leurs infrastructures.
Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Je rappelle le nom de l'ouvrage, je le montre, « Des fortifs au périph » de Jean-Louis Cohen et André Lortie. On attend avec impatience la suite des ateliers du périph, avec le plan programme chapeauté par la Pure qui devrait sortir à l'automne 2021. Merci à vous trois.
Conversation sur le périph, une émission en partenariat avec Cadre de Ville et le Pavillon de l'Arsenal, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.